D'abord des choses pratiques, puis après nous entrerons plus dans le spirituel. Alors, je vous rappelle donc que le lever, pendant cette semaine-ci, exceptionnellement, est à 6h30 pour vous donner un tout petit moment de répit et repartir avec plus d'amour après. Parce que chaque fois qu'on se repose, c'est pour repartir après en étant plus éveillé. N'oubliez pas, on dort pour être éveillé. Et donc si on dort un peu plus, c'est pour être éveillé davantage. Les repas de mardi midi, jeudi soir et vendredi soir, vous l'avez vu, pris en self-service. On fait ça pour détendre un tout petit peu, puis permettre aussi ceux qui, pour une raison ou pour une autre, spirituellement, veulent sauter un repas. Pas trop le repas de midi, le repas du soir, c'est encore possible, puisque on peut dormir après. Mais je demanderai à ceux qui veulent sauter un repas, toujours avoir la permission d'un des trois. Pas la peine de demander aux trois. Hein? Mais d'un des trois. Parce que je crois que c'est normal. Je dis ça, c'est parce qu'il y en a sûrement de très généreux. Hein? Les jeunes sont d'une générosité extraordinaire. Quand on commence hein, à vieillir, c'est plus difficile. Mais les jeunes sont d'une très grande générosité. C'est très très bien. Et je leur demande de continuer. Pourvu que ça dure, hein, et que ça dure longtemps, cette grande générosité. Mais il ne s'agit pas de brûler trop vite toutes les forces qu'on a. Alors, par le fait même, pas de récréation le mardi et le vendredi. Mais la promenade demeure libre pour ceux à qui c'est bon. Alors, je vous ai déjà recommandé, je le rappelle, je crois qu'il est bon tous les jours pour chacun d'entre vous de vous donner une demi-heure de promenade, d'exercice en récitant votre chapelet. C'est excellent. Alors, vous le faites seul, vous pouvez le faire à deux, vous pouvez le faire à trois ou à quatre. C'est bien, je crois, d'essayer de faire que cette promenade, je dis ça pour un exercice au point de vue profond, au point de vue respirer, le bon air, ça permet d'être plus détendu, de mieux dormir et de mieux travailler. Alors cette promenade, elle ne se fait pas n'importe quand. Je l'ai déjà dit à certains. Normalement, elle se fait après le repas. Ça fait d'une demi-heure, quoi. Après le repas, peut-être, dans certains cas, quand il y a la vaisselle, elle se fait après. Mais faites une promenade d'une demi-heure, c'est bon. Alors, quand vous devez faire une promenade plus longue, bah, très bien, je n'ai pas demandé de permission spéciale, puisque normalement, ça reprend. Mais soyez là à l'exercice commun. Sauf évidemment si vous vous perdez, n'est-ce pas, vous perdez le sens de l'orientation, comme des oiseaux voyageurs, vous êtes tourné à droite et à gauche et vous perdez. Ça arrive assez facilement, paraît-il, n'est-ce pas? Alors, faut pas se perdre volontairement, n'est-ce pas? Mais ça peut arriver. Normalement, une demi-heure, je ne crois pas qu'on a besoin de promener plus qu'une demi-heure par jour. Ça ne veut pas dire absolument tous les jours, vous voyez, soyez intelligent. Ça ne veut pas dire absolument tous les jours, vous n'allez pas me dire que vous manquez l'obéissance si vous faites cette promenade un jour sur deux, vous voyez que c'est bon pour vous. Là, il faut arriver à avoir une prudence personnelle. C'est important d'avoir cette prudence personnelle, parce que l'obéissance implique la prudence. Alors, on donne quelques petites règles générales, mais il faut comprendre qu'il faut découvrir soi-même un peu l'exercice qui est nécessaire pour un bon équilibre en vue de prier plus, de prier mieux, en vue de travailler d'une manière plus éveillée. La finalité, hein, n'oubliez pas. Ce n'est pas une finalité de se promener. Le vieil Aristote disait déjà qu'on se promenait pour maigrir. Hein. Donc ce n'est pas votre cas, à part. Non, mais ce n'est pas votre cas. Normalement, vous ne promenez pas pour maigrir. Vous promenez pour prendre un peu d'exercice, parce que c'est bien de prendre un peu d'exercice. Mais vous voyez, c'est finalisé. Hein. C'est finalisé, donc si de fait, hein, c'est pas la peine, parce que vous avez déjà, là vous faites 3 promenades par semaine, très bien. Mais soyez lucide, une bonne lucidité dans ce domaine-là. Quant au goûter, hein, lundi, mardi, mercredi et jeudi en silence. Alors, le goûter est facultatif pendant le temps de carême, hein. Tout à fait. Je sais que moi, il y a un self-service merveilleux qui me conduit ma tasse de... Je le remercie du respect. Quand on a plusieurs cours, j'avoue que ça fait du bien de pouvoir prendre quelque chose de chaud. Mais c'est facultatif. Hein. C'est facultatif. Et puis j'ai rappelé à Fribourg hier, n'est-ce pas, que ceux qui sont en dessous de 20 ans, 21 ans, ne sont pas tenus aux jeunes ecclésiastiques. Et ceux qui sont au-dessus de 60 ans, il n'y en a pas beaucoup, ne sont plus tenus non plus. Alors, les deux extrêmes se retouchent. C'est très très bien par rapport au jeune ecclésiastique. Mais comme le jeune ecclésiastique, on sait, hein, il est aujourd'hui tellement, tellement abandonné, il n'y a plus grand-chose. Hein. Mercredi décembre, vendredi saint. Entre deux... Nous essayons de maintenir un vrai carême. Et je crois qu'il faut le maintenir, un vrai carême. Parce que c'est une grande tradition dans l'Église. Et c'est un temps, mais pas tellement, voyez, de pénitence extérieure, je vous l'ai dit, je crois que vous ne pouvez pas en faire beaucoup, mais de conversion du cœur. Alors ça, oui, c'est une grande retraite avec la Sainte Vierge. Une grande retraite avec la Sainte Vierge. J'étais à Curières, samedi, dimanche, et j'étais là donc pour ce que à Curières on appelle, à Bethléem on appelle le grand pardon. C'était la première fois, pourtant ça m'arrive souvent d'y aller, mais c'est la première fois que j'ai assisté à cela. Vous savez que c'est une grande tradition orientale, le dernier dimanche avant le mercredi décembre. Le grand pardon. Et j'avoue que j'ai trouvé ça très beau. C'est très bien qu'on ne doit pas loucher sur Bethléem. Mais Bethléem, ce sont nos sœurs et nos frères. Et quand ils découvrent quelque chose de beau et de grand, c'est notre bien. N'est-ce pas ? Et comme lorsque nous découvrons quelque chose de bien et de beau, nous leur donnons. Ça fait partie de ces échanges qui, je crois, doivent être de plus en plus vrais. Parce qu'on doit se soutenir dans l'Église. Je crois que Bethléem fait partie, il a commencé avant nous, hein. Bethléem fait partie du renouveau de l'Église. Je crois que Saint Jean doit faire partie du renouveau de l'Église, tel que le Saint-Père le réclame tout le temps. Renouveau contemplatif, renouveau apostolique. Au très grand sens du renouveau, c'est-à-dire un retour à la source. Et alors c'est très beau ce jour du pardon, ce grand pardon durant l'Eucharistie. Ceux qui ont assisté à Bethléem déjà à ce grand pardon savent combien c'est très beau. En quelques mots, c'est une liturgie au milieu de la messe, juste avant la communion. Le prêtre prend le crucifix, le Christ qui est sur la table d'autel, et puis il va au-devant, et puis alors les supérieurs, et derrière les supérieurs, tous les autres, on se met à genoux, l'un en face de l'autre, et on se demande pardon. Et pardon du sacerdoce royal des fidèles. Alors là, je comprends ce pardon merveilleux, on se demande pardon, on demande de prier les uns pour les autres. Et puis le prêtre fait baiser le crucifix. Il y a comme chacun après, hein, vous voyez ce que ça fait hein, comme procession quand on est assez nombreux comme la curie. Hein, je pensais ici, ça va être pour le même nombre. Alors 80 fois on se met à genoux, on se relève, hein, bon exercice. J'avais à côté de moi le frère Patrick qui me dit au bout de trois, Père, restez debout. Alors je dis, mais non, voyons. Je suis pas encore trop vieux. C'était le médecin qui était là. On est le médecin qui disait, attention, ne vous fatiguez pas trop. Mais c'est très beau, parce qu'en même temps, justement, c'est vrai, on fait 80 fois, c'est se mettre à genoux, demander pardon. C'est une espèce de, j'allais dire, on sentait, sans sentir, vous comprenez bien, comme le grand pardon de Jésus, juste avant le carême. C'est très beau. Alors, vous ne l'avez pas fait, on ne l'avait pas encore, mais on y pensera. On y pensera, parce que c'est quand même quelque chose de très beau. Je crois que dans une communauté, vous voyez, il y a de temps en temps un grand pardon qu'il faut faire en face de Jésus, en face de Marie, pour se renouveler. Parce que c'est vrai, on se marche sur les pieds, on sait bien. On se critique, on le sait bien. On sait bien qu'on n'est pas tous à avoir les mêmes opinions. Ça n'a aucune espèce d'importance. Parce que d'avoir des opinions, qu'est-ce que c'est pour l'éternité, hein ? Ce sera brûlé pour l'éternité. C'est bien évident. Ce que nous essayons, c'est d'avoir la même foi contemplative, la même espérance dans le cœur de Marie et la même charité dans le cœur brûlant du Christ. C'est ça notre unité. C'est ça l'unité de l'Église et c'est ça notre unité à travers le cœur brûlant de l'agneau. Nos opinions, c'est secondaire. Laissons à toutes les propagandes de considérer les opinions comme des absolus. Ça, c'est toutes les propagandes. Les propagandes politiques, mais dans tous les sens, hein, les propagandes politiques considèrent que les opinions, c'est quelque chose d'absolu. C'est le propre des idéologies. Si nous cherchons, nous, à aimer, nous dépassons. Je crois que c'est très important de mettre l'absolu là où il est. Et là où il doit être, hein, là où on s'appuie sur le cœur du Christ, sur le cœur de Marie, sur le cœur de nos frères, dans l'amour du Christ et de Marie. Et c'est pour ça que c'est très beau ce pardon. Vous voyez, si on ne l'a pas fait, nous le faisons ce soir. Et je voudrais beaucoup tout à l'heure, en terminant, quand nous chanterons le Salve Regina, que dans le cœur de Marie, il y ait ce pardon, on ne fera pas de geste, hein, parce que ça durera un peu trop longtemps, mais on le fera intérieurement. Parce que je crois que c'est important. Vous voyez, Jean Vanier, à sa manière, c'est pas un théologien, vous savez bien, je ne fais pas de crime en disant ça, c'est pas ça. Jean Vanier, c'est le don de lui-même, le don de tous, pour les pauvres, les plus pauvres, les plus handicapés. Jean Vanier, dans un petit livre qu'il a écrit sur la communauté, en disant l'expérience de la communauté qu'il avait, une communauté qui est rude, hein, la communauté de Petsata, hein, c'est bien ce genre de communauté qu'il connaît. Il suffit de passer un trolley quelques jours pour s'apercevoir, hein, qu'il faut une certaine dose de charité, de miséricorde, pour vivre vraiment comme il la vive, ce genre de communauté, c'est grand. C'est pas, on ne doit pas imiter, c'est bien évident. On ne doit pas faire quelque chose de semblable. Parce qu'à côté de vous, vous n'avez pas un handicapé, hein. Pas trop, du moins. Ils sont tous un peu handicapés. Mais... Bon, quand même pas. Mais c'est vrai qu'une communauté d'handicapés comme vit Jean Vanier, c'est quelque chose. Hein. Et Jean Vanier, au bout de 10 ans, puisque vous le savez bien, je le connais bien, je l'aime beaucoup, et nous nous parlons profondément et dans la simplicité, voit que c'est le pardon qui est le fondement de la communauté. C'est pas tout à fait juste théologiquement, mais c'est vrai pratiquement. Ça existe des choses comme ça. Regardez, c'est que c'est vrai que c'est les manques de pardon qui empêchent l'Esprit Saint de pouvoir convertir notre cœur. Je crois que il faut qu'il y ait, et c'est pour ça que c'est bon quelquefois que ce soit signalé par un geste, par un signe, au début du carême, puisque nous demandons au Saint-Esprit de convertir notre cœur, puisque nous demandons à la Vierge Marie de convertir notre cœur, et que nous savons très bien que nous avons besoin de cette conversion pour pouvoir aller plus vite vers la sainteté, quoi. Il faut qu'il y ait ce pardon. Et spécialement, voyez, vis-à-vis de ceux sur lesquels c'est plus dur. Il y a toujours. Hein. Heureusement que ce n'est pas les mêmes. Hein. Heureusement. Parce que c'est toujours les mêmes. Mais pour chacun d'entre nous, il y a des casiers difficiles, hein, qui sont pénibles. Il y a tel frère qui vraiment nous tape sur les nerfs. Il n'en peut rien, ce pauvre frère. Hein. Et nous, quelquefois, nous n'en pouvons pas non plus beaucoup. Nous sommes comme ça, nous avons des sensibilités différentes, des opinions politiques différentes, politiques religieuses, qui sont pires que les autres politiques. Nous avons des politiques religieuses différentes, on a des conceptions un peu différentes. Alors, qu'on se demande vraiment pardon. Dans le cœur de Jésus, dans le cœur de Marie, et qu'on supplie l'Esprit Saint de faire qu'il n'y ait aucune trace. C'est tellement important, ça. C'est tellement important pour que l'Esprit Saint puisse agir en toute liberté. Je vous affirme, hein, je me souviens, une vieille coutume, hein, on était nombreux en famille. Et vous savez, en famille, hein, ce qu'on peut s'attraper, hein, et les tempéraments sont différents. Et quand on est à peu près du même âge, on s'attrape tout le temps. Il n'y a pas une journée sans laquelle on s'attrape. Et même quand il y a la vie religieuse, c'est extraordinaire. Eh bien, on avait pris cette coutume. C'était notre mère qui nous avait habitué ça. Ne jamais se coucher sans s'être demandé pardon. C'était dur, certains soirs. Surtout quand on était attrapé à 6 heures du soir, vous comprenez, ou à 7 heures. Quand c'était le matin, ça avait eu le temps, n'est-ce pas, mais quand c'était le soir, c'était pas commode. Hein. Alors, il fallait se coucher, et il fallait se demander pardon. Et je crois qu'on l'a jamais manqué. Et c'est quelque chose de très grand. Mais je m'en aperçois maintenant. À ce moment-là, je m'en apercevais pas. Je faisais parce que notre mère nous l'avait demandé. Et c'est merveilleux parce que ça maintient quelque chose, une unité. Au-delà de la diversité. Alors évidemment, vous ne pouvez pas tous les soirs vous demander pardon, hein, voyez. Mais quand même, hein, la bénédiction du soir, qu'on reçoit, c'est à ce moment-là, demander pardon. C'est plus facile, parce que vous vous inclinez. Et puis il y a que Jésus qui est en face de vous et Marie, vous demandez pardon. Vous demandez pardon dans le Salve Regina. On se demande mutuellement pardon. Alors c'est beau quand on sait que tous, on se demande pardon. Et qu'on repart toujours avec un nouvel élan. Je crois que c'est très très important d'introduire ça dans notre cœur au point de vue de notre vie commune. Vous voyez, parce qu'il y a des rancœurs qui demeurent. Hein. Et qui font que c'est tellement difficile après. Surtout quand vous deviendrez de vieux apôtres, hein, et de vieux missionnaires, avec tous les défauts des vieux apôtres et de vieux missionnaires. N'est-ce pas, au noviciat, on a encore peau neuve, mais après, dans 10 ans, dans 20 ans, hein, si Dieu prête vie, voyez ce que vous serez. Alors à ce moment-là, voyez bien, les engueulades, hein, vous ne le ferez peut-être pas officiellement, mais dans le fond de votre cœur. Hein, j'avais bien prédit, celui-là dès le noviciat est un imbécile. Vous voyez bien, c'est comme ça. Vous voyez, si on a pardonné, au contraire, on continuera de l'aimer. Et on se portera avec amour. parce qu'on doit se porter avec amour. Il y a un lien de fraternité, un lien de frère. C'est très très important ça. Vraiment, je crois que c'est très très important. La Sainte Vierge le demande. Croyez-le bien. C'est cela que la Très Sainte Vierge demande à la communauté Saint-Jean. Mais vraiment, elle le demande avec une très grande force. Comme elle nous demande d'avoir un très grand amour de la vérité. Comme elle nous demande d'avoir un désir intense de connaître le cœur blessé de l'agneau. De le connaître, de demeurer en lui. Et elle nous demande cette charité fraternelle très intense entre nous. Alors au début du carême, je crois que c'est la chose principale pour moi. C'est la chose principale. Si vraiment en face de Marie, on peut dire oui, on repart avec un nouvel élan, alors à ce moment-là, c'est énorme. Alors pendant tout le temps du carême, rappelez-vous le grand pardon. La Très Sainte Vierge aime mieux ça que, voyez, le sang des taureaux et des boucs. Sang des taureaux et des boucs, vous voyez bien ce que c'est, hein. C'est ce qu'elle veut, c'est notre cœur contrit, notre cœur aimant. Et qu'il y ait vraiment, au plus intime de notre cœur, cette soif. Deuxième petite remarque. Je l'ai dit parce que je crois que c'est quand même important. Je l'ai dit, c'est pas un secret, mais c'est... Voyez bien, la communauté de Bethléem, avec ce frère Patrick et puis sœur Marie, ils étaient dans la joie de voir que nos sœurs commencent. Alors on s'est dit, il ne faut surtout pas qu'il y ait des rivalités. Vous voyez bien, nous sommes frères dans le cœur de Marie, et les sœurs sont sœurs dans le cœur de Marie. Et les rivalités viennent si vite. Si vite, c'est vrai. On est quand même parallèles dans l'Église. Et on le sent bien. On le sent bien. Il y a des liens très forts. Et des liens qui sont de plus en plus forts, j'en suis sûr. Alors on s'est dit, quand il y a des petites tentations de passer de l'un côté ou de l'autre, hein, un frère de Saint-Jean qui veut devenir frère de Bethléem, ça peut arriver. Un frère de Bethléem qui veut devenir frère de Saint-Jean, ça peut arriver. Une sœur de Bethléem qui veut devenir sœur de Saint-Jean, ou l'inverse, hein. Ça peut arriver. C'est vrai, c'est des choses qu'il faut regarder. Je dis Bethléem parce que c'est quand même plus proche. Je suis de fait, la Providence m'a mis tellement proche de Bethléem que je sens l'unité et je sens que plus les sœurs de Bethléem sont proches du cœur de Saint Bruno, plus les frères de Bethléem sont proches du cœur de Saint Bruno, plus je sens combien on est proche. Entre Saint Bruno et Saint Dominique, il y a des parentés mystérieuses. Des parentés mystérieuses, vous savez bien. Saint Bruno était considéré de son temps comme le plus grand théologien. C'était le meilleur des théologiens. Il enseignait à Reims, il était le meilleur des théologiens. Cet étranger de Cologne qui s'établit en France, Saint-Dominique d'Espagne qui s'établit en France. C'est curieux ces choses-là, mystérieux. Et je crois qu'il y a quelque chose, je prends Saint-Dominique parce que vous comprenez bien, la page de Sainte Catherine de Sienne sur Saint Dominique, ça. Il faut de temps en temps que vous la relisiez, parce que ça nous aide à comprendre notre vie apostolique. Elle le dit par rapport à la vie apostolique de l'Église. Et je crois que c'est peut-être très bon pour vous, ça. Mais, moi, je l'aime beaucoup, cette page de Catherine de Sienne, parce que je crois que Catherine de Sienne a compris le cœur de Saint Dominique beaucoup mieux que beaucoup d'autres, vous voyez, que les chapitres. Vous voyez, c'est beaucoup mieux. Parce que C'était la petite fille bien-aimée, Saint-Dominique. Alors elle a compris ça de façon étonnante. Et elle nous montre comment Saint-Dominique a quelque chose dans l'Église de si, si beau. Et je crois que nous devons nous rappeler ça un peu pour l'Église d'aujourd'hui. Cette exigence de la doctrine, cette exigence de la limpidité du cœur, cette exigence de la charité fraternelle, Saint-Dominique nous aide à comprendre. Eh bien, je crois que c'est important de comprendre que nous nous appuyons sur une branche contemplative. Ça n'enlève rien du tout à l'appui de nos carmels que nous aimons tant. Saint-Sévé, Cognac, hein. Et puis le Carmel de Dijon bientôt, n'est-ce pas, puisque c'est les carmels les plus proches, les Clarisses, c'est bien évident, et tous ceux qui vivent la vie contemplative. Mais il y a quelque chose de spécial avec Bethléem. Alors on s'est dit, il ne faut absolument pas qu'il y ait cette rivalité. Il faut la tuer dès le point de départ. Et ça, c'est chacun d'entre nous. Parce que c'est un cœur ouvert à la grâce de Dieu qui fait qu'on ne veut pas qu'il y ait de rivalité, mais qui est de plus en plus une grande unité d'amour, de prière. Ne pas oublier qu'il faut prier les uns pour les autres. C'est important. Et puis que si jamais il y a ces désirs d'échange, on ne le fera qu'avec le consentement des deux côtés. C'est très joli, du reste, ça, je trouve ça très bien. On est, parce qu'il n'y a pas des raptes, vous voyez. Ça existe de temps en temps, ces raptes comme ça. Tu vois. Alors on met vite un mouchoir pour fermer les yeux du voisin, et puis pendant ce temps-là, on fait le travail par en dessous. C'est effrayant, parce que ça, c'est justement faire des raptes. Il ne faut surtout pas faire ça. Il faut au contraire que ça se garde avec une très grande limpidité. C'est la même chose pour nos sœurs, hein. Nos sœurs de Brancion, c'est exactement la même chose. Hein. Parce que s'il y a des tantes qui veulent devenir sœurs de Saint-Jean, on dira non, non, et qu'elles restent à Brancion. C'est pas du tout parce qu'on les rejette, mais c'est parce qu'on désire qu'il y ait cette très grande unité dans une grande loyauté. Je dis ça, c'est parce que je crois que c'est important au début du carême d'intensifier cette prière les uns pour les autres. Dans le cœur de Marie, je crois que Marie aime que nous prions pour ceux qu'elle a mis tout proche de nous. Que nous ayons cette confiance mutuelle, plénière, totale. En voyant la chose très belle dans le renouveau de l'Église, de voir que les contemplatifs, les contemplatives, les apôtres, à la croix, c'est Marie et Jean. La vie contemplative dans toute sa limpidité est Jean, qui est le disciple bien-aimé, l'apôtre de la doctrine, l'apôtre de la lumière. L'apôtre que nous devons aimer et en lui demandant de nous donner sa grâce, plus encore que saint Dominique. Mais saint Dominique est tellement dans la ligne de saint Jean que on peut passer par lui aussi, n'est-ce pas ? Mais que c'est cette ligne-là, que c'est dans ce sens-là que nous devons essayer d'entrer le plus possible. Et c'est la vie contemplative qui est nécessaire pour la vie d'un apôtre. Nous ne serons vrais dans l'Église, c'est-à-dire nous ferons vraiment que ce que Dieu nous demande, que si on s'appuie entièrement sur la vie contemplative. Et le Père Dôme disait toujours, hein, un apôtre a besoin de la limpidité, de la pureté des contemplatives. Parce que l'apôtre ne peut pas avoir la même limpidité, la même pureté. Forcément, il accepte, comme dit saint Thomas, d'offrir ce qui serait légitime un peu les repos de la contemplation pour le salut des âmes, pour le salut du monde. Tandis que les pures contemplatives, liées à Marie, liées au cœur de Marie, sont comme un rappel pour l'apôtre, sont un rappel de l'exigence même de la contemplation. C'est pour ça que c'est important pour nous. Et nous devons toujours nous rappeler ça, que nous en avons besoin. Jean est donné à Marie. Nous sommes donnés aux contemplatives. Et les contemplatives nous sont données. Comme Marie est donnée à Jean. Pour nous porter, pour nous aider. Alors évidemment, c'est toutes les contemplatives, je suis tout à fait d'accord. Mais spécialement celles que Dieu a unies d'une manière particulière. Et il y a comme ça des liens. Dans votre vie apostolique, après, il y en aura des quantités, c'est très vrai, mais actuellement, pour ici, de fait, ce sont ces divers couvents que Dieu a mis tout proche, que Dieu a relié. Alors nous devons nous rappeler cela au début de ce temps. Parce que je crois ça important, l'offrande du pauvre, l'offrande de la veuve. Nous sommes tous pauvres, nous sommes tous, j'allais dire, hein, comme l'offrande de la veuve. La seule richesse, c'est notre temps. Je crois que c'est très important pour nous de nous rappeler ça. La seule richesse, c'est notre temps. Et nous devons donner notre temps. C'est rude, c'est pas commode. Nous devons donner notre temps en sachant qu'on le donne à Dieu. On le donne au Christ. Et on doit comprendre que ce temps, nous le recevons gratuitement du Christ. Il est bon. Au début du carême, de remettre tout notre temps à Jésus, à Marie, et de demander à Jésus, à Marie, de nous aider à ordonner dans leur lumière ce que représente notre temps. Vous voyez, nous risquons toujours de perdre du temps. Vous le savez bien. Je ne vous demande pas comme examen de conscience tous les soirs de noter la perte de temps que vous avez durant la journée. Non, il ne faut pas être comme ça, mais on perd du temps. Et la grande tactique du démon, c'est de nous faire perdre du temps. Ça, c'est la grande tactique. Ce qui prouve, voyez, parce que le démon doit nous éclairer, ce qui prouve que l'Esprit Saint et la Vierge Marie ont un désir très intense que nous ne perdions pas de temps. Je crois que ça, c'est le propre des serviteurs de Jésus et des serviteurs de Marie. Marie n'a pas dû perdre du tout de temps durant toute sa vie. Alors là, elle est notre modèle. Elle est notre modèle d'une façon très étonnante. Marie n'a pas perdu de temps. De temps en temps, pensez à travers la méditation du rosaire, hein, pendant ce temps de carême. Pensez un peu à chacun des mystères qui nous montrent comment Marie s'est donnée entièrement, sans rien garder pour elle. Marie n'a pas perdu de temps, c'est pour ça que le démon ne pouvait pas la prendre. La femme qui fuit au désert, la femme qui est entièrement donnée à la charité fraternelle, la femme qui est entièrement servante de Dieu et servante de ceux que Dieu met proche d'elle, tout proche des serviteurs, comme à Cana. Toute la vie de la Très Sainte Vierge, c'est un service merveilleux. C'est le serviteur qui sait qu'il n'a pas à perdre de temps. Et c'est important de saisir qu'on est des serviteurs de Dieu. Plus Dieu nous prend dans l'oraison, plus on est ami du cœur de Jésus, plus il faut qu'on ait ce sens du serviteur. Vous savez bien les trois grandes qualités du serviteur que nous découvrons dans le cœur de Marie. Serviteur fidèle, serviteur doux, serviteur pauvre. Et je dis bien que c'est l'attitude du serviteur, parce que le serviteur, il sait le temps qu'il donne dans son service. C'est le propre du serviteur. L'enfant ne sait pas. C'est pour ça qu'il faut corriger de temps en temps l'enfant, vous voyez, parce que l'enfant, vous savez, il perd énormément de temps, l'enfant. Regardez un gosse comme il perd du temps, je ne sais pas ce que c'est. Aucun sens. Alors ça, c'est une très mauvaise imitation, vous voyez, de très mauvaise manière d'écouter Jésus. Hein. On doit être des enfants, dans la petitesse, dans la confiance. On doit être des serviteurs. Autrement, on devient des enfants gâtés. Et ça peut très bien arriver dans la vie religieuse. On vient des enfants gâtés parce que on ne sait plus très bien ce que ça représente, le coût de la vie. On ne sait plus très bien ce que ça représente, un travail sérieux, un travail fidèle, un travail où on se donne entièrement et totalement. On sait bien ça. Tant au point de vue intellectuel qu'au point de vue manuel. C'est vrai, on ne vous surveille pas énormément. Il n'y a pas tellement de pions derrière vous au point de vue du travail intellectuel. Qu'est-ce que vous avez fait durant cette semaine au point de vue intellectuel? Qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous avez fait au point de vue travail manuel? Qu'est-ce que vous avez fait? Si on devait gagner sa vie, si on avait des responsabilités, on saurait qu'il faut travailler sérieusement. On est des enfants de Dieu et on demeure des serviteurs. Et il faut, comme serviteur, ne pas perdre de temps. Ceci, c'est très important. Parce que Dieu nous donne ces années, hein. Il vous donne ces années de formation spirituelle, intellectuelle. Il vous donne ces années. Vous ne les retrouverez plus après, si vous les perdez maintenant. Alors chacun d'entre nous, nous devons essayer de nous former le mieux possible à ce que représentent les exigences profondes de la vie évangélique. Le mieux possible, nous former aux exigences d'une recherche de la vérité. Chacun, là où nous sommes, avec notre niveau et puis nos qualités, le sérieux d'un travail manuel. Pas uniquement le considérer comme une détente, hein. Je me détends, mais non, c'est pas ça. Un travail manuel, c'est assez sérieux, on le fait le mieux possible. Si ça nous détend, tant mieux, intellectuellement. Mais ce n'est pas le premier but. Hein. Le premier but, c'est la promenade qui vous détend. C'est pour ça que j'ai mis exprès la promenade, pour ne pas faire trop du travail manuel une détente. Non, le travail manuel, c'est sérieux. Ça doit être sérieux. Alors, ça peut détendre du travail intellectuel, puisque ça change, vous savez. La grande détente, c'est le changement. Non, c'est ça, la grande détente. C'est de changer. Alors, pour un manuel, pouvoir suivre un cours de métaphysique, pour quelqu'un qui suit des cours de métaphysique, faire un peu de travail manuel. Ça détend, c'est vrai, mais il faut que le travail manuel qu'on vous confie soit fait avec le plus d'amour possible. Toute espèce de travail manuel, avec le plus de fidélité dans l'obéissance. L'obéissance, c'est celui qui vous le demande de le faire le mieux possible et le faire d'autant mieux que, que justement c'est fait dans cette gratuité de l'amour. Demandez à Marie, durant ce temps de carême, de bien voir ce qui, dans votre vie actuellement, risque d'être une perte de temps. Il y a un petit examen de conscience très très bon à faire. Alors il ne s'agit pas de se tendre, hein. C'est pas ça du tout. Hein. C'est pas ça du tout, c'est pas du tout la même chose. Pas perdre de temps, c'est rejoindre la volonté du Père à travers toutes nos occupations. Rejoindre la volonté du Père. Comprendre que la volonté du Père doit se passer à travers toute notre vie. À travers les diverses occupations, c'est ça qui fait l'unité, et nous le faisons le mieux possible. Serviteur doux, parce qu'il obéit. L'obéissance nous donne la douceur, parce que l'obéissance, justement, s'oppose à ce que représente la dureté de celui qui est partisan. Et par l'obéissance, on se relie directement à la volonté du Père. Serviteur fidèle, fidèle dans les petites choses, fidèle dans le travail qu'on fait et qu'on désire faire le mieux possible. Pauvre, parce qu'il remet tout à Jésus, ça ne lui appartient pas, il n'a aucun droit. Alors demandez à la Vierge Marie, pour l'Église d'aujourd'hui, de pouvoir faire de chacun d'entre vous, que vous deveniez chacun d'entre vous, sous l'action de l'Esprit Saint, de vrais serviteurs du Christ, de vrais serviteurs de Marie, pour être encore plus des petits-enfants de l'Esprit Saint, pour être encore plus dans la docilité plénière à l'égard de l'Esprit Saint. Mais il y a les deux, vous voyez. C'est vrai que le service nous apprend à acquérir de la volonté. C'est très vrai. Un serviteur, il apprend la volonté. Un enfant, il apprend la gratuité de l'amour. Mais il ne faut jamais séparer ce que Dieu a uni. Et nous devons être des serviteurs et nous devons être des enfants. Nous devons être des enfants dans le mystère de l'oraison, dans le mystère de la prière, dans le mystère de l'intimité avec le cœur de Jésus et le cœur de Marie. Mais nous devons être des serviteurs, au sens très très fort, dans l'engagement de notre vie. Nous devons être des serviteurs fidèles, doux, pauvres. Des serviteurs du Christ, des serviteurs de Marie. Des serviteurs de nos frères, dans la charité fraternelle. Alors à ce moment-là, on acquiert une force intérieure, on acquiert cette volonté nécessaire qui nous permet de dire vraiment à Jésus que nous sommes là pour lui. Et on ne perd plus de temps.
Amen.
Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Saint-Esprit, par l'intercession du cœur douloureux et immaculé de Marie, vous bénisse et vous garde à jamais.
Amen.